12. Le sale boulot. C'est salissant souvent. Le sang jaillit. Ou c'est la boue quand vous vous bagarrez. Ou c'est une déchirure. Je recommande à personne qui veut tuer de s'habiller propre. Faut être en cochon. Jean Canol. Le lendemain matin s'ouvrit la dernière étape du voyage. Laissant derrière nous le modeste rempart de Kerkapel, on gagna rapidement l'orée de la forêt. Pendant 2 jours, nous avions marché vers l'est, longeant de loin les versants des hautes terres d'Agurande et de la seigneurie d'Ouchain. Les monts, impressionnants pendant notre premier jour de route, s'étaient peu à peu abaissés et ne formaient plus, au nord de Kerkapel, qu'une avancée de collines modestes, toutes chevelues de forêts. Le chemin adopté par Kéan nous y amenait presque en droite ligne. « Vert est là-dedans ? » demandai-je en montrant le paysage boisé. « Plutôt sur l'autre versant du massif, » répondit le chevalier. « La route est facile ? » ?»« Elle coupe de nombreuses allées secondaires quand on aborde le bosquet du desséché. J'espère que ma mémoire ne me jouera pas de tour et ne nous égarera point à une patte d'oie. Dans le bosquet, nous ne rencontrerons pas grand monde pour nous renseigner. Mais une fois que nous aurons rejoint la vallée de l'Andoun, ce sera facile. Il suffira de descendre la rivière. » La matinée n'était guère avancée quand on s'enfila sous les lisières. Le printemps avait couvert les branches de feuillage vert tendre, mais un ciel couvert chagrinait l'atmosphère et lâchait parfois un petit crachin. L'humidité assombrissait les écorces. Des vapeurs translucides rampaient ici et là entre les troncs. Deux profondes ornières semées de flaques traçaient notre chemin. Nous remontions une voie charretière et compte tenu de la nécropole qu'elle desservait, je n'imaginais que trop bien le type de chargement qui apportait les charrois. Le pas des chevaux clapotait sur ce terrain boueux. Au bout de quelque temps, la bruine et la pénombre nous engourdirent dans un malaise suintant. Kéan chevauchait toujours à mon côté, mais il paraissait redevenu aussi boudeur que le matin précédent. Cette attitude me confortait dans mes soupçons. Pour lui aussi, le moment de vérité approchait. Et peut-être avait-il plus de mal à me donner le change. Je contrefis les tourneaux qui n'y voyaient goutte et bavardais à tort et à travers. Il était crucial que je cache mon propre jeu. Au bout de quelque temps, en filant ma sotte parlotte, je m'étonnais même à haute voix que le paladin ait l'air si triste d'arriver à bon port. « C'est que, Sire Benvenuto, je risque d'y être froidement accueilli, » me dit-il à regret. « Allons donc, vous avez parlé de nos hôtes avec tant de chaleur. » Et je persiste à admirer leur grande courtoisie. Mais je vais devoir leur annoncer la capture de Monseigneur Blancandin. Or, j'étais de ses chevaliers à Lindinas, et me voici toujours libre. Vous conviendrez que ma position est assez fausse. Vous l'avez aidé à vaincre au cours du premier jour, et vous l'avez délivré une première fois lors du second, ce n'est pas rien. Si besoin, je témoignerai de vos exploits. C'est fort aimable, Sire Benvenuto. Vous êtes un bon compagnon. Mais l'honneur n'aurait-il pas voulu que je tente le tout pour le tout, afin de délivrer Monseigneur Blancandin? Hélas, je crains de n'en point donner l'impression. Kéan me servait sans doute ce baratin pour dissimuler le vrai motif de ses soucis. Bien trouvé, c'était tout à fait cohérent avec les scrupules d'un preux paladin. Puisqu'il me jouait cette comédie, je décidai de lui donner la réplique sans vergogne. « Écoutez, si ça peut vous rendre service, j'ai suffisamment de marge pour inclure la libération de Blancandin dans mes propositions. Pourvu que la dame Odéarde accepte les arrangements offerts par son Excellence Ducatoré, je suis certain que le podestat acceptera de contribuer à la rançon. Vraiment ? Ce serait une largesse bien extraordinaire de la part du père de sa rivale. Obliger ses adversaires est tout à fait dans ses principes. Votre seigneur est d'une admirable courtoisie, à un point que vous ne sauriez imaginer. Pendant qu'on échangeait ces gracieusetés, je le jaugeais du coin de l'œil, mon paladin. Jeune, vigoureux. Les plaies bosses que lui avait laissé le tournoi cicatrisaient rapidement. Avec une demi-tête de plus que moi et des épaules de débardeur. Les clients grands et costauds n'étaient pas un problème quand ils n'avaient pas l'habitude de la castagne. Mais ce gandin-là, question baston, il en connaissait un rayon. Heureusement, il s'était mis à l'aise pour la route et avait remballé son grand harnois dans le bagage. Il n'en portait pas moins la dague et avait accroché l'épée à son arçon. Mieux valait expédier son cas par surprise, sans quoi il me donnerait du fil à retordre. Le délicat de l'affaire, c'est que Kéan se trouvait flanqué d'un écuyer. Ou, pour être plus exact, il en était suivi comme son ombre. Le larbin avait tout juste du poil au menton, mais possédait déjà une solide carrure. En tout cas, il était lui aussi de grande taille et devait déjà me rendre mon poids. À coup sûr, on l'avait formé au combat, même s'il manquait probablement d'expérience. Il me faudrait donc composer avec ce duo. Bribra en soi ne serait sans doute qu'un piètre obstacle, mais le soutien qu'il pouvait apporter à un bagarreur aussi doué que Kéan représentait un risque non négligeable. Je devrais donc négocier le congé en finesse. Pendant que nous marchions, je passais en revue les options qui s'offraient à moi. À l'évidence, la sagesse commandait de les frapper séparément, en commençant par le plus dangereux. Or, la difficulté, c'était précisément d'écarter Kéan de son écuyer. Ces deux genoux avaient déjà des habitudes de vieux couple. Ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble, c'est tout juste s'ils ne couchaient pas ensemble. Même pour des affaires plus privées, ils restaient à la colle. Kéan se faisait habiller et déshabiller par le valet d'armes comme une grande dame par sa suivante. De leur éducation militaire, ils avaient gardé la sale habitude d'aller pisser côte à côte. Quand il fallait brosser les chevaux, le chevalier donnait un coup de main à son écuyer. On voyait bien que le preux n'était qu'un hobereau. Cesarino était du genre à laisser la corvée à ses larbins avec tellement de grâce que la Valtaille l'en aurait presque remercié. Sur la route, Bribra suivait trois ou quatre pas derrière nous avec le reste des chevaux. En plus, l'écuyer avait la garde de l'essentiel des armes, à commencer par les lances. En m'attaquant à Kéan sur le chemin, je courais le risque de me faire embrocher entre les épaules. J'envisageais donc divers stratagèmes pour séparer les inséparables. Prétexter que ma brave amiette marchait bizarrement, en espérant que Bribra, occupé à inspecter les fers, me laisserait le loisir de m'occuper du chevalier. Mais Kéan accordait tant de prix à ses chevaux qu'il aurait supervisé l'examen, ce qui ne m'aurait avancé à rien. Profiter d'une pause pendant que l'écuyer amenait les cavales au boire pour offrir à trinquer au paladin. Mais ce champion se prenait toujours pour un palefrenier. Il veillait également sur ses cadinçons quand ils allaient à la mare ou à la rivière. Prendre le chevalier à part, en prétextant une information secrète que j'avais eu ordre de ne délivrer qu'en arrivant en vue de notre destination. Le truc marcherait probablement, si Kéan n'était qu'un couillon de paladin. Mais si c'était un confrère de la guilde, il verrait arriver l'embrouille gros comme une maison. Alors que j'inventoriais ces subterfuges sans rien trouver de concluant, nous poursuivions notre route à travers bois. Quoique l'atmosphère fût désagréablement humide, la forêt n'avait rien de particulièrement impressionnant. Nous traversions des halliers et des gaulis dans un pays de combes peu profondes et de buttes modestes. Le coin ressemblait à une campagne rendue aux friches plutôt qu'aux futaies ténébreuses d'un sanctuaire. De temps en temps, nous arrivions à une croisée. Kéan et son écuyer hésitaient alors, n'ayant fait qu'une fois le voyage dans l'autre sens. Ils éprouvaient quelques difficultés à se repérer dans ce paysage broussailleux. Ces incertitudes étaient tentantes. Pour séparer le duo, j'aurais pu conseiller que chacun prenne une piste différente jusqu'à retrouver un coin familier. Je m'en gardais bien. Les ornières les plus profondes signalaient sans ambiguïté le chemin principal. Faire mine de ne pas le voir aurait été trop suspect. Vers la fin de la matinée, notre chemin boueux se transforma en une voie bien pavée, dont la chaussée paraissait ancienne puisque les charrois y avaient creusé des sillons parallèles. Kéan et Bribra affichèrent leur satisfaction. « Nous sommes sur la bonne route, » me dit le chevalier. « Nous ne tarderons plus à entrer dans le bosquet du desséché. » La nouvelle me réjouit moins que mes compagnons. Faire disparaître deux personnes dans une nécropole pourrait passer pour une ironie assez commode. En fait, rien de plus irréfléchi. Quand le cimetière est entretenu par des fossoyeurs tatillons, c'est le meilleur moyen de piquer des curiosités inquisitrices. Si je devais me débarrasser de Falourde, il valait mieux les remiser hors du bûcher. Plus moyen de différer en attendant le moment propice. Puisque l'occasion ne se présentait pas d'elle-même, il fallait la créer. Je me rabattis sur une ruse assez grossière, dont la simplicité était gage d'efficacité. Je repérai d'abord un tronçon de route bordé par des halliers particulièrement touffus. Alors que nous nous y engagions, je renouai avec la butorderie de la soldatesque que ma récente fréquentation des ouromans m'avait permis de réviser. Je lâchai une ou deux caisses bien flatulentes. Après quoi, je demandai une pause en maugréant. L'ennui de devoir recourir à ses extrémités devait me donner l'air assez convaincant du foireux qui ne veut pas conchier son haute chausse. Kéan suspendit la marche avec politesse. Sitôt arrêté, je mis pied à terre. Je débouclai mon ceinturon qui, lesté de son aumônière, de sa dague et de son épée, était plutôt encombrant pour faire ce que j'étais censé faire. Je le laissai accrocher en évidence à mon arçon. Puis, délesté de mes lames, je m'enfonçai dans les buissons. Je n'étais désarmé qu'en apparence. Il me restait deux petits surins dans leurs étuis de bottes et de manches. Je m'écartai de la route de 15 à 20 pas en froissant bruyamment la ramée. Puis, ayant retiré ma casaque de voyage, je la suspendis bien en évidence à une branche. Après quoi, libre de mes mouvements, je repartis à pas de loup. Je me faufilai dans le hallier sur 4 ou 5 toises dans la direction d'où nous étions venus, avant de me rabattre vers la percée. Malgré un luxe de précaution, les feuilles mortes et quelques brindilles crissaient parfois sous ma semelle. Heureusement, la bruine avait chargé d'eau les feuillages. Ce qui, à mon oreille, craquait en crépitements intempestifs, se perdait en fait dans le tambourinement des gouttières. Je parvins à me glisser juste derrière la lisière, à quelques pas du dernier cheval. Dissimulé par un léger rideau de verdure, j'épiai mes compagnons. Le chevalier et son écuyer avaient profité de la pause pour aller pisser sur l'autre bord du chemin, côte à côte selon leur habitude. Puis, ils se partagèrent une gourde à laquelle ils burent quelques gorgées. Comme je tardais à revenir, Bribra entreprit de vérifier les sangles de son bidet et d'amiette, tandis que Kéan caressait le chanfrein de ses destriers. Je demeurais parfaitement immobile, indifférent aux gouttes froides qui me tombaient lourdement sur la calebasse. Au bout d'un moment, le paladin commença à trouver le temps long. Il est vrai que pour quelqu'un qui avait la courante, je lambinais comme si j'étais constipé.
« Ohé ! » appela Kéan. Tout va bien, seigneur Benvenuto ? »
Il attendit quelques instants, et comme je restais bouche cousue, me héla de plus belle.
« Êtes-vous malade, seigneur Benvenuto ? »
Cette fois, l'écuyer tendit l'oreille avec son maître, en vain puisque je les espionnais dans le plus grand silence. « Que nous invente-t-il encore, ce tchoudalien ?» marmonna le chevalier sur un ton qui me désobligea un brin. Bribra joignit sa voix à celle de Kéan pour m'appeler. Je les laissai chanter tous leurs sous. « Il ne s'est quand même pas perdu dans les bois !» finit par pester le paladin. « Peut-être a-t-il eu un malaise ?» suggéra son servant.
« Ah ! Heureusement que ce voyage touche à son terme. Bribrin, va donc voir ce qu'il trafique.
Le valet d'armes obéit sans barguigner. Il s'engagea sous la ramée, là où j'avais disparu, à 15 pas tout au plus de l'endroit où je me trouvais tapis. Concentré sur la direction où j'avais fait du bruit, il ne soupçonna nullement ma présence sur sa gauche. L'attrape Nigo avait fonctionné. Vu le prix que ces deux nobliaux accordaient à leurs chevaux, j'avais pressenti qu'ils ne les laisseraient pas sans surveillance. J'étais parvenu à les séparer pour quelques instants. Normalement, c'était plus qu'il ne me fallait. Je me glissais sur la route en tapinois. Kéan, qui tâchait de suivre des yeux son écuyer, ne m'aperçut pas. Je contournais les cavales en catimini pour lui tomber sur les reins. Ce fut à ce moment que je connus un doute qui faillit me coûter cher. L'expérience me commandait de frapper au couteau. Sur un gaillard sans méfiance et désarmé, c'était le meilleur moyen d'en finir au plus vite. Seulement, je n'avais pas complètement digéré, ni même compris, le rattache de vos mamelles. Alors certes, Kéan ne portait pas la cuirasse, certes, mes surins coupaient comme des rasoirs, mais leur lame n'avait pas la taille d'une dague, et puis quand même, j'avais poignardé vos mamelles au défaut de l'armure. Or, si ce champion de tournoi qu'était Kéan se montrait aussi coriace que l'autre récalcitrant, il ne se coucherait pas facilement. Il risquait même de crier et de rameuter son laquais. Bribra était très bien dans sa feuillée. Je comptais lui laisser le loisir de profiter de la balade. Pour cela, il fallait tuer en silence. Alors, plutôt qu'empoigner un couteau, je saisis mon lacet maquillé en aiguillette. Dubois s'éleva la voix de l'écuyer.
« J'ai trouvé son manteau »
cria-t-il.
« Et le seigneur Benvenuto ?»
demanda Kéan.
« Je ne le vois pas !»
Le seigneur Benvenuto, il surgissait dans le dos du secourable chevalier. D'un coup de pied dans le talon, je lui fauchais sa jambe d'appui. Alors qu'il s'effondrait, je lui enroulais le lacet autour du cou en croisant le collet pour plus de sûreté. Avant même que Kéan ait atterri sur les fesses, il était garrotté étroit, le sifflet coupé. La surprise et la chute accrurent la force de l'étranglement. Ce coup-là était presque aussi raide qu'une potence. Le paladin eut la réaction vitale et stupide de tous les petits veinards qui se font serrer le kiki. Il porta les mains à sa gorge, se griffa au sang pour tenter de desserrer le garrot. Effort aussi frénétique que futile. C'est que je tirais de bon cœur de mon côté. Pour parvenir à saisir ce collier incrusté dans sa chair, il aurait dû commencer par s'ouvrir le cou. Je lui écrasais l'échine sous le genou en appuyant de tout mon poids. « Laisse aller, » lui suggérais-je à mi-voix, « ça passera plus vite. » Mais mon conseil tomba dans l'oreille d'un sourd. Kéan fit sa mauvaise tête. Il rua comme un cheval sauvage, toute sa force mobilisée pour la survie, insensible au coup de genou que je lui distribuais sur l'épine dorsale. Il parvint même à se relever à moitié. Agitation commode, dans un sens. Plus tôt il aurait brûlé son souffle, plus tôt ce serait fini. Mais plus il se débattait, plus le pas de deux se corsait. D'abord, le paladin avait la nuque épaisse comme un billot. J'aurais dû le prévoir. L'entraînement quotidien au maniement des armes de guerre lui avait donné une encolure de bœuf. Même avec un gentil fil d'acier, dur de garrotter en vitesse un gosier aussi musclé. Heureusement, je lui avais verrouillé le clapet, mais on tanguait quand même méchamment. Lui en dérapant sur le pavé, moi en lui serrant la bride. Or, nous étions juste à côté des chevaux. Les deux destriers, endurcis au combat, demeurèrent placides. Mais les chevaux de monte et l'animal de bas prirent peur devant notre agitation. Amiette broncha, le sommier encensa. Ils s'écartèrent dans un martèlement de sabots, un hennissement déchira le calme pluvieux des sous-bois. Ces sales bêtes faisaient trop de bruit. Kéan commençait tout juste à donner des signes de faiblesse quand je vis Bribra émerger des feuillages. L'écuyer s'arrêta, interdit, avec la tête du mioche qui tombe sur papa et maman en train de faire la bête à deux dos.
« T'inquiète !»
lui lançai-je sur un ton rigolard.
« C'est juste un jeu !»
Au même moment, je donnai un sévère coup de collier. dans tous les sens du terme, pour conclure la partie. Seulement la poisse ne me lâchait pas. Kéan avait également vu Bribra. Cela lui donna un nouveau sursaut. À ceci près qu'au lieu de se débattre, il porta la main à sa dague qu'il tira du fourreau. Toute l'affaire commençait à patiner. Ayant retourné son arme, le paladin tenta de me poignarder au jugé. Je parvins à faire valdinguer sa lame d'un bon coup de pied au poignet. Mais le geste me déséquilibra. Le lacet se desserra. Kéan reprit une inspiration chuintante. Au même moment, l'écuyer secoua sa stupeur et se rua sur nous. Le chevalier ne s'était pas débarrassé du garrot. Je le refermai d'un coup sec en y mettant toute ma hargne, furieux contre le nobliot, son ahuride valet et surtout contre moi-même. Kéan avala un drôle de hoquet, mais je ne sentis pas son cou craquer. Ce putain de paladin n'avait rien d'un Pidocchiolo, pas moyen de lui faire tourner la tête. Bribra nous tombait dessus, plus le temps d'achever mon blondin. Alors, lâchant le lacet, je repoussai le chevalier dans les bras de cet emmerdeur. Mais le foutu écuyer était joliment affûté. Il esquiva sans peine la chute de son patron et m'attaqua à la dague avant que j'aie pu saisir une arme. Je bloquai le premier assaut de l'avant-bras. Le couteau gainé sous ma manche m'épargna une vilaine encoche. Simultanément, un coup de pied à la rotule fit reculer le gêneur, mais sans le faucher. Il avait ramené la dague en position basse, trop dangereuse pour que je puisse l'entreprendre au corps à corps. Du moins, eus-je le temps de tirer mon surin. J'étais en rage. Mon petit tour de passe-passe n'avait rien donné. Je me retrouvais pile dans le pétrin que j'avais voulu éviter. Même muni d'un couteau, mon allonge restait plus courte que celle donnée à Bribra par sa dague. Quant à Kéan, il était toujours vivant et debout. Son cou saignait comme si j'avais tenté de l'égorger. Pour l'instant, il titubait en tâchant de retrouver ses moyens. Même quand on a échappé au pire, pas évident de reprendre son souffle avec une trachée écrasée. Cela me laissait encore un bref répit avant qu'il ne devienne dangereux. Mais il trébuchait déjà en direction de son cheval où était suspendue son épée. Il était vital de neutraliser l'écuyer au plus vite, sans quoi j'allais me faire hacher. Une feinte me permit de réduire la distance et de passer sous sa garde. Surpris, Bribra chercha à me rendre la politesse en me balançant une talonnade. Lui happant la cheville, je n'eus qu'à lui poignarder l'intérieur de la cuisse. Ce sale larbin n'en perdit pas tous ses effets et m'allongea aussi son coup de pointe. Je sentis la morsure du fer me marquer la joue et déchirer mon col. Un saut en arrière m'épargna une estocade plus grave. L'écuyer, après avoir été à deux doigts de s'effondrer, se remit d'aplomb. Mais j'avais pris l'avantage. Sa jambe pissait le sang et arrosait le pavé tandis que sa taillade ne me brûlait que superficiellement le visage. Dans un simple duel, je l'aurais menacé sans m'exposer pour le laisser se vider tranquillement avant de porter le coup fatal. Il était conscient d'être méchamment poinçonné. Je lisais maintenant la peur dans ses yeux. Et il esquissa un geste pour comprimer sa cuisse avant de se reprendre et de rester en garde. Il avait raison. Je n'avais pas le temps d'attendre que la saignée fasse son œuvre. Kéan venait de rejoindre sa monture. Le chevalier avait-il conscience qu'il était trop diminué pour m'offrir le combat à armes égales? Mon attaquant traître avait-elle ruiné sa courtoisie? Le gaillard ne se contenta pas de tirer l'épée. Il mit d'abord le pied à l'étrier et se hissa en selle. Il allait me charger à cheval. Et moi, pauvre couillon, je n'avais qu'un couteau à opposer à une forte épée de 6 empans et à un destrier de 10 quintaux. Il ne me restait que quelques instants pour me débarrasser de Bribra. Afin de protéger sa jambe percée, il l'avait ramené en arrière, en position d'appui. Ce fut mon ouverture. Sa posture manquait de solidité. Je fis 2 feintes rapides, à droite, à gauche, pour le forcer à mobiliser ce membre blessé dans des déplacements brusques. À peine avait-il fléchi, j'étais sur lui. De ma main armée, je crochetais son genou valide, tandis que je lui envoyais de la gauche un solide taquet sous le menton. Il s'effondra. Penché sur lui, un pied sur son poignet, je neutralisais sa dague. En même temps, je le lardais de plusieurs coups entre les côtes. Juste à temps. Kéan, en selle, était en train d'éperonner, l'épée brandie pour me sabrer. J'eus le réflexe de me placer derrière le corps de l'écuyer qui bougeait encore pour gêner sa charge. Mais l'expédient ne me donnait qu'un pis-aller fugace. Avec mon malheureux Eustache, j'étais réduit à l'impuissance face à un ennemi monté. Que faire? Me jeter sur le mort de la cavale pour terminer décervelé et piétiné à mort?
Tenter la voltige équestre, moi le cavalier accompli, pour poignarder Kéan une fois en croupe? Ridicule, suicidaire. Je m'engouffrais dans le hallier, là où l'adversaire ne pouvait me pourchasser à cheval. Mais hors de question de m'éclipser dans la ramée, car si le blondin préférait porter secours à son écuyer plutôt que me poursuivre à pied, alors les choses tourneraient au vinaigre pour ma pomme. Le seigneur de Vert et l'ex-duchesse seraient avertis. Pour la deuxième fois, je foirerais un contrat. Autant dire que je deviendrais moi aussi un mort en sursis. Pas le choix. Il fallait terminer le boulot. Si bien que je détalais à travers les fourrés, mais pas pour déguerpir. En perçant dans le hallier, je courus parallèlement à la route, surgis de la verdure 20 toises plus loin, là où les chevaux effrayés par le pugilat avaient reculé. Je fondis sur Amiette, non pour l'enfourcher, pour récupérer mon épée accrochée à son arçon. Mais la haridelle n'avait décidément rien dans le ventre. Mon irruption lui fit l'effet d'un diable jailli hors de sa boîte. Elle se cabra, se déroba, volta et prit la fuite au galop, emportant avec elle mon ceinturon d'armes. À découvert et à poil, Don Benvenuto. Au même moment, le pavé se mit à trembler sous les fers du destrier. Je ne cherchais même pas à jauger le danger. Ce simple coup d'œil aurait été l'instant de trop qui m'aurait valu un rasage définitif. À l'instinct, je me jetai vers le refuge le plus proche. Un roulé-boulet m'amena dans les jambes de la bête de bas qui ne s'était écartée que de quelques pas. Les sabots du cheval de bataille claquèrent à moins d'une toise. Le souffle de la charge me colla un joli frisson et j'entrevis la pointe de l'épée qui frôlait la panse du sommier. Kéan poursuivit sur son élan, mais s'apprêtait déjà à tourner bride. Quant au ronsin, surpris par l'intrus qui s'était tapi sous son ventre et la galopade qui l'avait menacé, il partit en crabe et battit du pied, manquant de m'écrabouiller au passage. En me dégageant pour me retrouver périlleusement exposé, mon regard accrocha son bagage. Y était suspendu le bouclier sous housse, trop encombrant pour m'être utile, et ma putain d'arbalète, dramatiquement déchargée. Y étaient également appendues les lances d'arçon du chevalier, ma dernière chance. Le cheval de somme me fuyait, mais encombré par son fait, il était moins vif qu'Amiette. Je parvins à happer l'extrémité d'une lance et à la tirer à moi. Kéan venait de volter sèchement. Les fers de son énorme coursier arrachèrent une gerbe d'étincelles au pavage. Le paladin avait vraiment une sale gueule, couleur brique, les yeux rouges de vaisseaux éclatés. Il piqua des deux pour revenir à l'assaut. Tout se joua alors si vite que ni lui ni moi on eut le temps de placer un coup réfléchi. La force de l'entraînement décida pour nous. J'eus le réflexe du phalangiste face à la cavalerie. La lance pointée en oblique, le talon de l'arme appuyé au sol et calé sous le pied arrière. Kéan se rua droit sur moi. Dressé sur les étriers, l'épée en garde haute avec une impétuosité dévastatrice. Ce fut son aguerrissement qui le perdit. Il avait tellement l'habitude d'affronter et de briser des lances qu'il ne dévia pas d'un pouce devant celle que j'avais retournée contre lui. Mais ce jour-là, dans le feu de la colère, il avait oublié qu'il ne portait pas l'armure. Il s'enferra de toute la puissance du cheval. Sa lame siffla sans mal au-dessus de ma terrine, mais je fus heurté par l'épaule du destrier. J'eus l'impression d'être cueilli par un boulet de trébuchet. Le monde se déroba sous mes pieds, tourbillonna joyeusement autour de moi. Et puis, je me ramassai une monumentale gamelle dans un fracas de bois brisé. La conscience contuse, je commençai par me demander ce que je trafiquais allongé sur le dos, à contempler le crachin qui déroulait ses haleines par une trouée du feuillage. Une dizaine de douleurs plus ou moins aiguës vinrent très vite me remettre les idées en place. L'impact m'avait balancé hors de la route, à travers les taillis. Dans un sens, c'était une chance. Au lieu de rebondir sur la chaussée et de m'y faire aplatir par des sabots à gros pâturons, j'avais échoué dans la ramée. N'empêche, je m'étais proprement écorché sur les tronçons des arbustes que j'avais pulvérisés dans ma chute. Un nombre invraisemblable d'échardes s'était logé dans mes mains, mes cuisses et mes fesses. Mais le plus stimulant fut sans conteste un élancement brutal dans la poitrine. La bourrade du cheval m'avait froissé les côtes. Impossible toutefois de geindre sur mon matelas de ronces et de branches brisées. Il fallait m'assurer de mes deux clients. Si l'un d'eux avait encore du nerf, je n'étais pas tiré d'affaire. Le simple fait de me redresser me poignarda le flanc à m'en couper le souffle. Tant pis. Les larmes aux yeux, les dents serrées, je me remis sur pied. Il ne me restait plus qu'un couteau dans une botte. Je fus bien près de tourner de l'œil en me penchant pour le dégainer. Et puis, la respiration courte, je me traînais jusqu'à la route. Les chevaux étaient éparpillés dans tous les sens. Une vraie débâcle. Kéan gisait fort loin, à près de 100 toises de l'endroit où je l'avais frappé. Sans doute avait-il été entraîné par la course de son destrier et avait-il lutté pour rester en selle. Je me dirigeais vers lui à petits pas souffreteux. En chemin, je ramassais son épée, non sans grimacer sous l'effet de mes côtes devenues un peu trop flottantes à mon goût. La moindre torsion du buste me faisait l'effet d'être caressé au peigne de fer. Heureusement pour moi, le paladin était hors de combat. Il reposait étalé sur le flanc, dans l'herbe qui bordait la chaussée. La lance s'était en partie rompue, mais il était toujours transpercé par la moitié supérieure, entré sous l'estomac, puis ressorti entre les vertèbres et l'épaule. Je m'accroupis à côté de lui, en jurant entre deux hoquets de douleur. Ce foutu dur à cuire n'avait pas encore rendu les clés, mais il était dans les vapes. Sa respiration râlait faiblement, recrachant parfois des bulles sanglantes. Il me suffit d'appuyer une main sur son visage pour étouffer ce dernier filet de vie. Quand son compte fut réglé, je saisis sa poigne gauche pour prendre son anneau. Le bijou vint facilement. Il n'était pas tout à fait à son doigt. Entre le pouce et l'index, je récupérais une bague délicate en or fin, vierge de toute inscription et ornée d'une cornaline. L'intaille représentait un petit oiseau dépourvu de bec et de pattes. Rien à voir avec un insigne de commensalité. J'en fus drôlement soulagé. Kéan n'appartenait pas à la guilde. Le conseil muet ne cherchait donc pas à me doubler. Je confisquai quand même cette joncaille. J'avais quelque idée de l'usage que je pourrais en faire. M'étant relevé, non sans peine, je revins sur mes pas en direction de l'endroit où j'avais abandonné Bribra. Au passage, j'essayais d'approcher Amiette, qui trimballait toujours mon ceinturon d'armes et mon paquetage, mais la jument fit son effarouché et je ne parvins pas à lui attraper la bride. Remettant à plus tard la récupération de mon trousseau, je revins sur le coin de route où j'avais été à ça de me faire trouer la panse. Une mauvaise surprise m'y attendait. Hormis les destriers, la chaussée était déserte. Le sale lâcheur d'écuyer. Malgré ses deux jambes lardées et son buffet plein de courant d'air, il avait encore eu la force de mettre les bouts. Avec la quantité de sang qu'il avait perdu, ce ne fut pas compliqué de remonter sa piste. En fait, il s'était juste traîné hors de vue. Il gisait à moins de 20 pas au milieu des fourrés, saigné à blanc. L'effort avait précipité sa fin. Il était mort quand je le rejoignis. Je m'octroyais une petite pause à côté du Maccabée. Ça faisait presque plaisir d'avoir de la compagnie sans bavardage adornée de courtisanerie. On pouvait savourer à l'aise la brise dans les feuillages, le crépitement doux des gouttières, le parfum tannique des écorces. C'était juste dommage d'avoir payé ce calme si cher. Avec toutes les égratignures qui me griffaient le postérieur, j'avais l'impression de m'être assis dans une vierge de fer. Pis encore, le moindre mouvement m'enfonçait des crochets chauds à travers la poitrine. Malgré ma petite forme, hors de question de prendre racine. Pour l'instant, l'endroit était désert, mais des pèlerins pouvaient surgir à tout moment au tournant de la route. Je perdis quand même quelques instants pour inspecter mon flanc droit. Il avait pris des nuances richement violacées, couleur de viande avariée. La palpation de cette barbaque me valut plus d'un tressaillement. Cependant, si les côtes étaient sensibles, toutes paraissaient en place. Au moins j'échappais au soufflet perforé et au risque de crever comme un poisson hors de l'eau. Les soins attendraient. L'urgent, c'était de disparaître. J'aurais été plus ingambe j'aurais mis en scène les corps de mes deux victimes dans une tuerie fratricide. Mais Kéan était parti mourir au diable. Je ne me sentais pas la santé de le soulever sur un cheval pour le rapprocher de son écuyer, et encore moins de traîner le cadavre de Bribra à travers les taillis jusqu'à la route. Tant pis pour la scénographie. Je devrais faire sans. De toute façon, l'éparpillement des mares de sang n'aurait pas trop collé avec ce touchant tableau. Du moins, passais-je l'anneau de Kéan au petit doigt de Bribra. On ne savait jamais. La chance aidant, la fausse piste pourrait me dédouaner. Pour me défarguer, en tout cas, il était vital que je ne laisse aucune trace. Il va sans dire que je me gardais bien de voler quoi que ce soit aux deux dormeurs. Les babioles les plus anodines, les pièces les plus innocemment rognées, peuvent parfois vous attirer une guigne phénoménale quand elles tombent sous les yeux de quelqu'un à qui elles rappellent vaguement quelque chose. Je n'eus pas trop de peine à apaiser le cheval de somme, ce qui me permit de récupérer mon arbalète et son carquois. En revanche, pas moyen d'approcher Amiette. La jument s'était enfuie assez loin sur la route et me surveillait d'un air horrifié, les babines retroussées, en ruminant de l'air. Dès que je tentais un pas vers elle, elle faisait deux cabrioles en arrière. J'essayais de lui parler gentiment, comme à une jolie fille un peu rétive à la monte. Elle se balançait alors d'un antérieur sur l'autre tout en lançant des hennissements angoissés. Sitôt que je faisais mine d'approcher, c'était la fuite. Je finis par la couvrir d'injures, ce qui ne marcha pas mieux. Il était hors de question que je lui laisse mes armes, mon or et mon baluchon à cette sale rosse. En définitive, je la dressais à ma façon. Quelques tours de manivelle, un trait dans la rigole, l'arbalète à l'épaule et clac. À 100 pas, ma jolie, entre les yeux. Comme ça, tu te méfiais de moi? Tu avais bien raison. Arrivé au niveau de la charogne, j'arrachai le carreau de son chanfrein. Seul le fût et l'empennage vinrent. La pointe métallique resta fichée au fond de la cervelle. C'était un peu fâcheux, mais je n'avais pas le temps de me lancer dans la boucherie équine. Tant pis, la signature du forfait demeurerait discrète. Une fois récupéré mon sac, sérieusement aplati, et bouclé mon ceinturon d'armes, je pus tirer ma révérence. J'abandonnais à Kéan et à son écuyer tous leurs canassons. Trop compromettant et trop mal commode pour la suite du programme. Sans compter qu'avec toutes les échardes que j'avais dans le fondement, poser le cul sur une selle m'aurait valu l'apoplexie.